Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. La prolifération d'engins explosifs non désamorcés constitue une menace sérieuse pour la population dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Selon les services provinciaux de la protection civile à Nitouri, ces engins ont déjà été découverts depuis le début de l'année dans ces territoires où plusieurs groupes armés sont encore actifs. Le ministre du Commerce extérieur alerte sur l'entrée frauduleuse de Sima Amaloukou à Kinshasa. C'est ainsi que Julien Paloukou appelle le procureur général près le tribunal de la grande instance de Kinkolé à se saisir de ce dossier et d'ouvrir une enquête judiciaire. À l'occasion de la journée mondiale de la dépression célébrée le 27 octobre, Radio Okapi reçoit Dr Philippe Ntalaja du centre neuropsychiatrique Dr Joseph Guilin à Lubumbashi. Il revient sur la dépression, les causes, les symptômes de cette maladie et comment la prévenir ou la traiter. Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs. En Ituri, la prolifération d'engins explosifs non désamorcés dans les anciennes zones de combat constitue une menace sérieuse pour la population, notamment dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Au moins 5 engins ont été découverts en l'espace d'une semaine, alerte la coordination provinciale de la protection civile. Une situation qui limite les déplacements des habitants vers leurs champs et les points d'eau. Isaac Remoyope, reportage.
Des dizaines d'engins explosifs non encore désamorcés ont déjà été découverts depuis le début de l'année dans les territoires de Djougou et Irumu, où plusieurs groupes armés restent actifs, rapporte le service provincial de la protection civile à Nitouri. Parmi les cas récents, 4 engins ont été aperçus jeudi dernier par la population au village de Djaouda dans les territoires de Djougou, où des affrontements avaient opposé les FARDC à des miliciens il y a une semaine. Une autre bombe a également été découverte lundi près d'un puits d'eau à Tchabi, à plus de 100 km aussi de Bounia. Cette situation réduit fortement les mouvements de la population dans certains espaces publics, souligne la coordination provinciale de la protection civile. Son responsable Robert Njalunga évoque plusieurs défis, le manque de connaissances de la population sur la détection de ces engins meurtriers et l'absence d'expertise locale pour leur neutralisation. Il plaide pour l'intensification des campagnes de sensibilisation dans les zones à risque par les services spécialisés. La MONUSCO appuie déjà ses efforts à travers le marquage des zones dangereuse et la sensibilisation communautaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, au moins 9 civils ont été tués par balles et à l'arme blanche dans la nuit de lundi à ce mardi dans le territoire de Rutshuru. L'incident a eu lieu lors d'une incursion d'hommes armés au chef-lieu du groupement des Bichoucha, chefferie de Buito, précise les sources locales. Elle déplore cette énième attaque contre les civils dans cette zone à conflit permanent et sanglant entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo. Les détails avec vous, Élisée Chikota-Chivueta.
C'est autour de 19h15 dans la soirée hier lundi que cette incursion d'hommes armés est intervenue au centre de Bichoucha dans le groupement portant le même nom en chefferie de Buito. Des hommes armés que certaines sources assimilent aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC Nyatura ont attaqué le village tuant 9 personnes dont 4 commerçants bien connus dans les milieux et 3 enfants. Au moins 7 autres personnes ont été blessées et plusieurs biens de la population y compris des produits pharmaceutiques pillés. Des sources proche des CMC nie toute responsabilité dans cette attaque intervenue dans la zone où, selon elle, leurs unités ne sont pas déployées. Celle-ci attribue à leur tour ces actes à un conflit interne entre les éléments de la défense locale de l'AFC M23. Elle pense que les conflits fonciers pourraient aussi être à la base de cet incident. Nos sources dans cette entité coutumière déplorent cet énième incident qui intervient 2 jours après une autre incursion presque similaire dans les groupements voisins de Bukombo. Là, c'est une femme qui avait été tuée dimanche dernier et plusieurs maisons incendiées lors des accrochages entre l'AFC M23 et les CMC Nyatura dans les villages Boulechou, Mutanda et Kivumu. C'est respectivement dans les localités Machango et Makomale.
Dans le sud Kivu voisin, le territoire de Fizi fait face aux multiples affrontements entre différents groupes armés qui pilulent dans la région. Les cas les plus récents font état d'affrontements entre deux factions rivales de Ouazalendo, faisant 4 morts dans la cité minière de Misisi. L'administrateur du territoire de Fizi appelle toutes les parties à enterrer la hache de guerre et à veiller à protéger l'intégrité territoriale. On écoute Sami Badibanga au micro de Radio Okapi.
Le territoire de Fizi s'est réveillé le 24 sous les crépitements des balles. Ils nous vivent tension, s'est observée dans les secteurs d'Enganja et celui de Lulenge, précisément dans le village Misisi, Lulimba dans le groupement de Basikasilo. Le bilan provisoire est de 4 morts. Dû aux accrochages des éléments CNPCC de Yamuli Yakutumba, c'est des Fabébé de Nkomanzito, les obligeant de démanteler le barrière payante érigée sur certains passages de la population. À Kilembwe, le barrière payante érigé par une autre faction de Ouazalendo et un habitant blessé, les territoires de Fizi lancent un appel de paix à tous les VDP Ouazalendo. Une partie de notre territoire de Fizi est occupée par le Red Tabara, Ngumino, Tikaneo Pro M23. Nous devons nous concentrer tous à faire libérer cette partie de notre territoire assiégée par les ennemis de la patrie.
Évaluer l'approche de l'Union européenne en matière de développement durable dans des contextes fragiles et les enseignements à tirer de la mise en œuvre pratique des Nexus Développement, aide humanitaire et paix. Tel est le but de la mission d'une délégation de 8 députés européens de la Commission Développement ainsi que de la Commission Droits de l'Homme du Parlement européen. Elle va séjourner en RDC du lundi 27 au mercredi 29 octobre. Plus de détails sur cette mission avec Alain Irung.
Selon un communiqué de l'Union européenne, ces députés rencontreront les parties prenantes concernées et visiteront des projets à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga afin de voir comment l'initiative phare de l'UE Global Gateway se traduit dans la pratique en RDC. Les députés évalueront également les efforts visant à soutenir la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles de la RDC, en particulier compte tenu du rôle critique des minéraux congolais dans les chaînes d'approvisionnement mondial en matières premières critique et en tenant compte des aspects plus larges des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Au cours de leur mission de 3 jours, les députés rencontreront des responsables des gouvernements locaux, des acteurs du secteur privé ainsi que des représentants d'organisations de la société civile active dans le domaine durable, la conservation de la biodiversité, la gouvernance minière et la protection des droits de l'homme dans les industries extractives. Ils effectueront également un certain nombre de visites sur le terrain pour constater directement l'impact du soutien de l'UE en faveur des projets liés à l'agriculture, à la formation technique et professionnelle, à la participation des communautés locales, à l'autonomisation des femmes et à la prévention des pratiques de travail des enfants.
Au Kasaï oriental, les chefs de groupement de Bena Mwembia et Bena Chimina, deux entités du territoire de Katanda qui se disputent les terres arables depuis plusieurs décennies, appellent leurs administrés à cultiver la paix et à enterrer la hache des guerres. Ces deux chefs l'ont dit au cours d'un atelier de localisation des résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies organisé par le Centre féminin d'information des formations pour le développement CFIFE. C'était le week-end dernier. Esther Ndarafina pour le reportage.
Au cours de l'atelier de localisation des résolutions 1325 et 2250, les chefs coutumiers de Bena Kapuya, Bena Chimba et Bena Mwembia, comme participants, ont été appelés à rétablir la paix dans leurs milieux respectifs après les disputes de terres depuis plusieurs décennies. En réponse, les chefs des groupements en conflit ont indiqué qu'un pacte de non-agression a été signé au mois d'avril dernier. Explication de chef Christophe Kachada du groupement de Bena Chimba.
Il y a eu en date du 10 au 11 avril de l'année en cours, la signature des pactes de paix et de non-agression. Nous nous sommes convenus que quiconque osera transgresser ce pacte lui racontera seulement des malheurs, même jusqu'à sa mort,
avec toute sa famille.
C'est ainsi qu'ils lancent les appels à leurs administrés à rétablir la paix et la concorde. Chef Kabemba Yampanou du groupement de Bena Mwembia.
Moi, je lance à la population de Bena Mwembia, s'il y a un problème, qu'ils gardent toujours leur position de maîtrise.
Chef Christophe Kachala de Benachimba s'est aussi exprimé en ces termes.
Je dis à toute la communauté de Benachimba de cultiver la paix, de continuer de vivre en harmonie avec tous nos frères de Benakopoya et de Benemoya, tel que ça avait déjà commencé.
Signalons que le conflit foncier à Katanda a déjà fait des centaines de morts. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Le ministre du Commerce extérieur alerte sur l'entrée frauduleuse des ciments à Maluku à Kinshasa. C'est ce qu'indique son communiqué parvenu ce mardi à Radio Okapi. Julien Paluku Kaonga appelle le procureur général près les tribunaux de la grande instance de Kinkolé à se saisir de ces dossiers et d'ouvrir une enquête judiciaire. Cela pour protéger l'industrie locale. Le point avec Grace Amzati.
Dans son communiqué, le ministre du Commerce extérieur dit avoir été alerté avec preuve à l'appui sur l'introduction frauduleuse des ciments d'Ondango Tsemen au port Linda et du transporteur Booming alias Skibwa Espel en violation manifeste de la mesure de restriction actuellement en vigueur interdisant toute entrée du ciment dans les parties ouest et sud-est du pays. Et cela dans le but de sauvegarder l'industrie locale en faisant ainsi face à la concurrence déloyale et à des pratiques illicites d'importation. Julien Paluku affirme que l'entrée frauduleuse des ciments à Maluku constitue un acte préjudiciable aux efforts du gouvernement de la République visant à promouvoir la production locale et à garantir un climat de concurrence non déloyale. Ainsi, il a saisi le directeur général de la Société d'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur, SIGUS, et les procureurs généraux près le tribunal de grande instance de Kinkolé de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires pour identifier les circuits frauduleux utilisés et y mettre fin, renforcer le contrôle au point d'entrée notamment dans la zone de Maluku et assurer un suivi rigoureux afin de prévenir toute récidive.
Restons dans la capitale. Des habitants de plusieurs quartiers de Kinshasa éprouvent de sérieuses difficultés d'accès à l'eau potable. La Régie des eaux attribue cette situation aux entreprises qui, lors de travaux de réhabilitation des routes, défoncent les tuyaux des conduites d'eau à Kinshasa. Jean Bosco Mwaka, directeur général adjoint de la Régie des eaux, affirme qu'elle a émis des devis depuis 3 mois afin de réparer ces tuyaux, mais ces entreprises ne payent toujours pas leur dû. On écoute Jean Bosco Mwaka.
Dans les 56 sites, nous avons émis des devis pour la réhabilitation. On a commencé par Cité Pumbu. Cité Pumbu, ça fait aujourd'hui plus de 3 mois où un devis de $56,000 n'a jamais été payé. Et les gens sont là, ils ne sont pas connectés au réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux. Pourquoi? À cause des travaux. Si vous allez à Barumbu, Angiringiri, Barumbu, Lingwala, Kinshasa, même à Gombe, Anjili, Amasina, on a beaucoup de travaux qui se font et beaucoup de nos abonnés n'ont pas d'eau. Raison pour laquelle nous interpellons toutes ces entreprises. En dehors de l'OVD qui prend parfois soin de venir à la Régie des eaux avant de commencer les travaux. Mais les autres entreprises ne les font pas. On est parfois surpris de constater qu'il y a seulement des casses, les gens n'ont pas de l'eau, il y a des fuites. Donc, il faut que ça soit une conscience de tout le monde. La Régie des eaux, c'est la société de la population. Nous disons, la population est censée aussi à veiller aux installations de la Régie des eaux.
Concernant les branchements sociaux, Jean Bosco Mwaka affirme que cette opération continue dans la quasi-totalité des communes de Kinshasa. Avec $50, vous devenez abonné de la Régie des eaux. Comment identifier les agri-multiplicateurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les semences pour les donner aux semeurs de la province du Kasaï central? C'est le but de l'atelier organisé par le Programme national du développement agricole PENDA. L'objectif est de former les agri-multiplicateurs et les compagnies sémencières pour renforcer la production agricole dans la province. Plus de détails avec André Katende.
Cet atelier de 2 jours connaît la participation des agri-multiplicateurs et membres des compagnies sémencières venues des 5 territoires du Kasaï central et de l'interland de la ville de Kananga. Selon les organisateurs, ils contribuent à la structuration durable et performante de l'agriculture au Kasaï central, identifier et favoriser la mise en réseau de ces acteurs clés. Dans son allocution, M. Zuma Nabamba, qui a parlé au nom du directeur régional et représentant résident de l'ITEA en RDC, l'atelier permet de réfléchir sur les stratégies pouvant permettre une bonne production et assurer un appui efficace aux agri-multiplicateurs et aux cultivateurs pour lutter contre la famine au Kasaï central.
Cet atelier est une occasion unique de mettre en synergie nos expertises et nos ressources pour bâtir un système semencier performant, durable et adapté aux réalités locales. Nous devons ensemble identifier les opportunités, surmonter les obstacles et définir des actions concrètes qui permettront d'appuyer efficacement les agrimultiplicateurs et de renforcer les capacités des compagnies semencières.
L'atelier vise également à identifier les contraintes et les opportunités pour trouver des voies et moyens pouvant permettre une meilleure production au Kasaï central. Kananga, André Katendingala Mulume, Radio Kapi.
C'est aujourd'hui que le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe débute l'instruction dans l'affaire du braquage des jouets le 16 octobre à la société Rabobank à la place Victoire à Kinshasa. Principale accusée dans ces procès de flagrance, Madame Honorine Porsche, citoyenne allemande, est poursuivie par l'auditeur supérieur militaire pour des infractions présumées de vol à main armée d'une somme de 10 000 dollars, de terrorisme et association des malfaiteurs. Quatre autres personnes, dont deux gardiens de la Rabobank et deux commissaires de la police comparaissent avec elle pour les mêmes faits. Deux en cavale sont jugés par contumance. Se déclarant athée à la première audience d'introduction, Honorine Porsche plaide non coupable et préfère voir son procès aller vite dès ce mardi, contrairement à ses avocats et ceux des partis civils Rabobank qui plaidaient pour un renvoi à 8 jours. Rappelons que notre procès relatif aux traitements inhumains et dégradants subis par Porsche lors du braquage est organisé séparément devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe contre les militaires PEM. Sa prochaine audience est prévue au 3 novembre.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sort vainqueur de la présidentielle de samedi, selon les résultats provisoires proclamés lundi 27 octobre par la Commission électorale indépendante. Ce dernier obtient près de 89% des suffrages, alors que les deux principales figures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiane, ont été récalés de ces scrutins par le Conseil constitutionnel. Au Cameroun, le président sortant Paul Biya a été déclaré vainqueur du scrutin par le Conseil constitutionnel avec 53,66% des suffrages devant Issa Chiroma Bakari, 35,19%, qui a déclaré ne pas reconnaître ce résultat.
L'invité.
Notre invité est Dr Philippe Ntalaja du Centre Neuropsychiatrique Dr Joseph Guilin à Lubumbashi. À l'occasion de la Journée mondiale de la dépression célébrée le 27 octobre, il revient sur la dépression, les causes, les symptômes de cette maladie et comment la prévenir ou la traiter. Dr Philippe Ntalaja s'entretient avec Paul Mounanga.
Dr Philippe Ntalaja, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Tout d'abord, c'est quoi la dépression mentale?
La dépression mentale, c'est une perturbation de l'humeur qui est caractérisée par une tristesse morbide ou persistante dans le sens négatif. Cette tristesse peut se manifester sous forme d'une souffrance intérieure qui affecte la vie quotidienne de l'individu ou du sujet, sur le plan social, sur le plan professionnel, même sur le plan psychique.
Pouvez-vous un peu définir dans des termes qui sont un peu plus clairs et plus simples?
Donc c'est une perturbation des sens de bien-être de la personne. La sensation de bien-être, tout va bien, on se réveille, on part au boulot, on se réveille, on part au marché, on se réveille, on fait toutes les activités de la vie. Par exemple, les activités physiques ou les activités sportives. Mais dès que vous perdez le sens de bien-être, il y a ce qu'on appelle perturbation de l'humeur ou perturbation de bien-être, de cueillette. Tout va bien, toutes les activités, c'est l'humeur. Alors maintenant, quand il y a perturbation de cette humeur-là, ça s'appelle humeur dépressive. Donc une tristesse, quelqu'un devient triste de façon permanente. Et puis persistante. C'est cela que nous appelons une perturbation des troubles de l'humeur. La sensation de bien-être là, soit ça peut aller dans le sens extrême, dans le sens négatif. Conséquence, quelqu'un devient triste avec perte d'intérêt, perte de plaisir. Par conséquent, il devient inutile à la vie relationnelle quotidienne.
Et quelles sont les tranches d'âge qui sont touchées généralement par cette maladie?
Cette maladie touche tout âge confondu. Même toute race, même toute couleur, je précise. Surtout le sexe féminin est le plus incriminé.
Pourquoi?
Parce que le sexe féminin, c'est une créature très faible devant des situations sociales ou devant une vulnérabilité génétique, contrairement que le sexe masculin.
Quels sont les signes ou symptômes de la dépression?
Les signes qui peuvent vous guider ou orienter quelqu'un qui souffre de la dépression sont les suivants. Tristesse quasi permanente, avec parfois des plaies sans motif. Perte d'intérêt et du plaisir pour des activités habituellement agréables. Sentiment de dévalorisation et de culpabilité. Idée de mort ou de la série noire ou suicide récurrente. Fatigue ou perte d'énergie. Perte d'appétit. Perturbation du sommeil. Difficulté de concentration et de mémoire, perte de poids et autres éléments, isolement, conséquence, négligence de l'hygiène corporelle et puis quelqu'un devient inutile dans la société.
Et qu'est-ce qui cause une dépression?
Les maladies chroniques que nous avons et certains facteurs environnementaux et sociaux.
Quelles maladies par exemple?
Par exemple, la démence, qui est une maladie neurodégénérative, les gens développent la dépression. Les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les gens développent la dépression. Toute maladie chronique, par exemple l'épilepsie ou la schizophrénie, qui est une maladie chronique, les gens développent la dépression. Maintenant, les facteurs importants sont les suivants. Facteurs environnementaux et sociaux. Lesquels sociaux, par exemple? Divorce, déception, séparation des parents, guerre, comme actuellement nos frères et sœurs de l'Est du pays, misère ou situation socio-économique défavorable, échec dans la vie ou échec scolaire, isolement dans la famille, c'est très important, la séparation des familles, et puis autre chose, manque d'emploi ou le chômage, c'est un élément important, la consommation des drogues peuvent être les facteurs très importants de la dépression, la déception, l'échec scolaire.
Et finalement, comment prévenir cette maladie?
Pour prévenir la maladie mentale que j'appelle la dépression, il faut d'abord améliorer les conditions de vie et de travail des gens. Il faut lutter contre le chômage. Il faut lutter contre les inégalités sociales. Il faut arrêter de prendre l'alcool, de fumer. Il faut s'adapter aux toutes circonstances de la vie. Quand il y a deuil, il faut accepter. Quand il y a déception dans la vie, il faut accepter. Il faut s'adapter dans la vie, faire ce qu'on appelle la résilience pour être en bonne santé mentale.
Et qui peut soigner une dépression mentale?
Celui qui peut soigner une dépression mentale, c'est toute une prise en charge qui est holistique. Un psychiatre ou un neurologue, on appelle expert en santé mentale, comme moi qui vous parle. Si une dépression a des étapes, si c'est modéré ou majeur, on donne les médicaments. Après cette étape, on va faire ce qu'on appelle la psychothérapie. Après la psychothérapie, on va faire ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Il faut que quelqu'un rentre dans sa vie ultérieure. Donc, la dépression, il y a l'implication de tout le monde. Le psychiatre, les psychologues, l'assistante sociale.
Docteur Philippe Ntalaja, je vous remercie.
Merci beaucoup, cher journaliste.
Et c'était donc notre invité, Dr Philippe Ntalaja, qui s'entretenait avec Paul Emonanga. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivueta, supervisée par Alain Irongmochinge. Alain Goy, la mise en onde. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques, ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.